Bonsoir à tous. Et bienvenue pour cette 37e soirée d'éthique publique, la deuxième de cette année universitaire du Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. Bienvenue aux fidèles de ce rendez-vous, le premier mardi de chaque mois. Bienvenue aussi ce soir à ceux qui viennent pour la première fois. Nous sommes très nombreux ce soir dans plusieurs salles reliées par l'image et le son. J'espère que tout fonctionnera bien. Nous sommes aussi reliés à Lyon et à Bordeaux. En effet, ces soirées d'éthique publique sont désormais transmises en direct à l'espace Saint-Ignace à Lyon et à la paroisse Notre-Dame-des-Anges de Bordeaux, où d'autres auditeurs que je salue sont rassemblés pour la soirée avec les compagnons jésuites qui sont là-bas. Je rappelle qu'il est possible d'écouter, de réécouter l'enregistrement de ces soirées et de toutes les soirées précédentes d'ailleurs sur le site internet du Centre Sèvres, www.centresèvres.com. Le mois dernier, nous avons essayé de comprendre les enjeux et les évolutions du Proche-Orient. Que faut-il craindre au Proche-Orient? Que peut-on encore espérer? Le mois prochain, le mardi 4 décembre, nous réfléchirons à un autre sujet délicat, un sujet qui fait l'objet de grands débats aujourd'hui dans notre société, puisqu'il s'agit de la fin de vie. Notre soirée en partenariat avec l'hebdomadaire Pèlerin et le département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres aura pour thème « Fin de vie, quelle société voulons-nous ?» Et pour nous aider à réfléchir, eh bien, nous recevrons le père Patrick Verspiren, qui est jésuite, membre du département d'éthique biomédicale, spécialiste reconnu de ces questions, et le docteur Marie-Sylvie Richard, qui est médecin à la maison médicale Jeanne Garnier dans le 15e arrondissement. Alors c'est une autre question de société, sensible, délicate, qui nous rassemble ce soir. Une question d'actualité, puisque c'est demain que le projet de loi relatif au mariage et à l'adoption pour les personnes de même sexe, appelé le mariage pour tous, sera présenté en Conseil des ministres. Les députés devraient voter fin janvier. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette promesse de campagne du candidat François Hollande, je crois que c'était la 31e promesse, ne fait pas l'unanimité. Nombreux sont ceux qui estiment que ce projet, qui a des conséquences très importantes pour notre société, nécessite une vraie réflexion pour prendre la mesure des enjeux. C'est le cas, mais pas seulement, des instances officielles, des grandes religions qui, dans une rare unanimité, s'inquiètent du projet du gouvernement. Leurs interventions laissent le plus souvent de côté des argumentaires théologiques pour mettre en lumière des enjeux très importants, notamment en matière anthropologique, en matière de filiation, et privilégient l'analyse des conséquences sociales de ce projet. Alors certains d'entre vous, par exemple, ont pu prendre connaissance de la position de M. Gilles Bernheim, le grand rabbin de France, dans le document « Mariage homosexuel, homoparentalité et adoption, ce que l'on oublie souvent de dire », ou bien le document du Conseil Famille et Société de la Conférence des évêques de France intitulé « Élargir le mariage aux personnes du même sexe, ouvrons le débat », qui est paru en septembre dernier. Il nous a semblé important pour notre part d'essayer d'apporter notre pierre à la réflexion en essayant de nous arrêter sur les différents points qui font que le projet de mariage pour tous pose problème aujourd'hui. Le point de départ, comme à chacune de nos rencontres, est la parole de deux personnes qui vont partager simplement, modestement, en confiance, comment ils perçoivent les enjeux de cette réalité. Leur parole n'est évidemment pas une parole définitive, mais c'est une parole pour ouvrir à d'autres paroles, d'autres réflexions, et nous prendrons le temps de l'échange entre nous après leurs interventions. Pour nous aider dans notre réflexion, je suis donc heureux d'accueillir nos invités, le père Paul Valadier et Madame Marie-Christine Le Boursicot. Paul Valadier, on ne devrait pas le présenter ici dans cette maison, est jésuite, professeur de philosophie morale et politique, spécialiste de Nietzsche, il fut doyen de la faculté de philosophie ici, rédacteur en chef de la revue Les Études, je crois, de 1981 à 1989, maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Paris, de 1979 à 1985, enseignant également à l'Université catholique de Lyon, et il est actuellement le directeur de la revue Les Archives de philosophie. Paul Valadier est l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels je ne ferai que citer ce soir Inévitable morale aux éditions du Seuil en 1990, Éloge de la conscience en 1994, La morale sort de l'ombre en 2006 chez DDB, Du spirituel en politique aux éditions Bayard en 2008, et publié l'an dernier au CERF, L'exception humaine. Je crois que devrait paraître très bientôt votre dernier ouvrage, ton dernier ouvrage, La beauté fait signe, art, morale et religion, également aux éditions du CERF. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, Paul. Nous sommes également très heureux d'accueillir Madame Marie-Christine de Boursicot, magistrate, docteur en droit. Vous êtes conseiller à la Cour de cassation, après avoir été notamment, je crois, je parle sous votre contrôle, conseiller à la Cour d'appel de Versailles et présidente de chambre à la Cour d'appel de Rouen. Vous vous êtes intéressé à l'enfant, à sa situation juridique, aux aspects juridiques de l'adoption, de la filiation. Vous êtes l'auteur de nombreux articles, vous avez contribué à plusieurs ouvrages sur ces questions. C'est le cas notamment de L'enfant, sujet de droit, un ouvrage collectif paru en 2010 aux éditions Lamy, ou bien de Homoparentalité, état des lieux, un ouvrage collectif paru en 2005 aux éditions ARS, dans laquelle vous avez écrit un article intitulé « De la filiation vraisemblable à la filiation impossible ». Vous avez été secrétaire général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles et vous avez été membre aussi pendant plus d'une dizaine d'années, je crois, du Conseil supérieur de l'adoption. Pour nous aider à saisir les enjeux de la réforme, il est en effet essentiel de se référer également au droit. Merci beaucoup donc d'être avec nous ce soir pour nous éclairer sur ce point. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à nos invités, comme nous en avons l'habitude, avant d'avoir un temps de débat tous ensemble. Et je vais donner la parole d'abord au père Paul Valadier.
Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Pourquoi le mariage homosexuel pose-t-il problème? Il me semble que cette question est heureusement posée, parce qu'elle indique qu'en effet, il y a des problèmes. Quelle que soit la solution adoptée, quel que soit le point de vue que l'on a, il est clair que des problèmes existent, sauf pour ceux qui, aveugles, ne veulent absolument pas voir ces problèmes et croient que tout est simple. Notre titre nous aide à sortir du manichéisme en pondérant les objections, car elles existent et je voudrais modestement en avancer quelques-unes, évidemment de manière non exhaustive et de manière évidemment très modeste. Je vais partir du projet de loi qui a été divulgué à la mi-décembre par la garde des Sceaux, Madame Christiane Taubira, et je vais m'arrêter à un point de vue de philosophie politique essentiellement. Donc c'est l'angle que je vais prendre. Je crois qu'il est bon de s'arrêter en préambule à ce projet lui-même et d'abord à son titre. Projet de loi visant à ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe. Ouvrir le mariage aux personnes de même sexe. Évidemment, tout cela sera sans doute modifié puisqu'il y a un conseil des ministres demain, il y a des débats parlementaires. Enfin, le texte est sous nos yeux et c'est ainsi qu'il est formulé. Dans l'exposé des motifs, je crois qu'on peut relever trois raisons, trois motifs donnés pour une telle ouverture, un tel projet de loi. Le premier motif, c'est que le mariage n'a pas été défini par le Code civil qui traite des actes du mariage, puis dans un titre distinct des conditions, des effets et de la dissolution du mariage. Nulle part n'a été expressément affirmé que le mariage suppose l'union d'un homme et d'une femme. Et par conséquent, on laisse entendre que puisqu'il n'y a pas de définition, on peut sans doute, c'est mon commentaire, en donner une autre, et Madame Taubira ne se prive pas de le faire, je vais y revenir. Deuxième motif, L'idée de l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe a constamment progressé depuis le vote de la loi de 1999 relative au pacte de solidarité. Une majorité de Français y étant aujourd'hui favorable. Donc, appui sur l'opinion publique et son évolution vers une solution plus ouverte. Et puis, il y a un troisième motif. Le PACS ne suffit pas, ne répond pas ni à la demande des couples de personnes de même sexe qui souhaitent pouvoir se marier, ni à leur demande d'accès à l'adoption. Une nouvelle étape doit donc être franchie. On pourrait déjà s'arrêter sur cette idée de nouvelle étape. Vers quel but, ça n'est pas précisé, mais on voit bien la perspective de l'étape. Alors, je voudrais avancer quelques difficultés que je crois rencontrer du point de vue de la philosophie politique. La première interrogation, elle porte sur les prérogatives d'un pouvoir politique, de manière extrêmement générale. Est-ce qu'il appartient à un pouvoir politique de redéfinir le mariage, de modifier sa définition? Est-ce qu'il a le droit de le faire de sa propre autorité? Posant la question autrement, on pourrait se demander s'il y a des limites au pouvoir politique et lesquelles. Alors, je rappelle qu'il s'agit d'une promesse du candidat, j'ouvrirai des droits à du candidat à la présidence de la République, et que la garde des Sceaux insiste très souvent, en particulier dans un entretien bien connu à La Croix, sur cette promesse pour la réaliser. Est-ce que c'est un fondement suffisant? Je dirais que cela pose quand même le problème des limites d'un pouvoir politique. Y a-t-il des choses qu'il ne peut pas faire? Cela rappelle une vieille question, et je vais employer un mot extrêmement dangereux, mais que connaissent bien les juristes et les philosophes du droit, c'est la notion de droit naturel. L'idée de droit naturel indiquait au moins des limites du pouvoir politique. Tout ne peut pas être fait par le pouvoir politique, il y a des choses qui lui sont interdites, et par contre, il y a des choses qu'il doit garantir. Le droit des gens, par exemple, pour accueillir l'étranger. Aujourd'hui, on a de la peine à parler de droit naturel, mais l'avantage de cette notion, c'est qu'en effet, elle posait une limite indistincte, mais une limite très réelle au pouvoir politique qui n'avait pas le droit de tout faire. On peut poser la question autrement. Est-ce qu'une majorité parlementaire a tout droit sur la société qu'elle représente? Et je voudrais simplement citer une phrase du cardinal 23 aux parlementaires le 30 octobre 2012. Il dit la même chose, me semble-t-il, de manière plus politique, sans parler de droit naturel. « Je ne pense pas, dit le cardinal, que l'organisation des mœurs conjugales et de la transmission de la filiation fasse partie des éléments d'une alternance politique. Elle engage trop profondément l'avenir de la société pour n'être qu'une conséquence automatique d'une élection. » Fin de citation. Autrement dit encore, il retrouve, me semble-t-il, le souci des grands philosophes libéraux, du libéralisme politique, commencé par John Stuart Mill ou Benjamin Constant. Est-ce que la démocratie ne risque pas de verser dans une tyrannie de la majorité? Et y a-t-il donc des limites qu'une majorité ou qu'un pouvoir politique ne peut pas franchir? C'est ma première question. Alors on répondra, et c'est ma deuxième question, que le pouvoir politique ne fait jamais que souscrire à une demande sociale. Et c'est en effet ce qu'on voit dans l'exposé des motifs. Et cette demande est évidemment réelle. Mais le problème est de savoir si une minorité très active, certainement très visible dans les médias, une minorité qui a sa place dans la société civile comme toutes les autres minorités, mais qui fait beaucoup de bruit et qui n'est pas nécessairement, contrairement à ce qu'elle dit souvent, discriminée, est-ce qu'une minorité ou des lobbies sont suffisants pour faire basculer l'opinion en amplifiant la demande et par conséquent en influant sur le pouvoir politique, en le portant à prendre des décisions au nom de ces lobbies. Et par conséquent, la question qui se pose, bien sûr la loi ne peut pas ne pas tenir compte des évolutions sociales, mais la loi doit-elle dépendre en tout de ces évolutions sociales? Doit-elle les suivre? Avec les risques en particulier de manipulation des esprits au nom des sondages. Et vous avez vu qu'ici, dans le texte des motifs, on fait allusion à cette évolution favorable de l'opinion publique. Il y a un risque très considérable d'aboutir à un pouvoir politique démagogique, c'est-à-dire qui suit l'opinion, en tout cas dans l'opinion, ceux qui parlent le plus fort, plutôt que de suivre les exigences de ce qu'on appellera, dans un jargon bien connu, le bien commun ou l'intérêt public. Je pense en particulier à cette formule d'Hannah Arendt qu'elle applique pour les régimes totalitaires, ce que ne sont pas nos régimes, bien entendu, c'est qu'elle estimait que dans les régimes totalitaires, tout est possible. C'est-à-dire que précisément, il n'y a pas de limite au pouvoir politique. Il peut en effet refonder les lois, refonder les mentalités selon ce qu'il souhaite. Or, nous sommes dans une république, res publica. Ce qui doit donc commander un pouvoir républicain, ce n'est pas d'obéir à tous les courants d'opinion et certainement pas à ceux qui crient le plus fort, mais c'est d'avoir le souci de la chose publique dans son ensemble. Alors, le problème, vous voyez, c'est qu'on risque, je vais y venir dans un instant, de prendre des décisions sur la base de pressions sociales, qui sont réelles, mais en risquant d'oublier la res publica, c'est-à-dire la chose publique. Je m'appuie à nouveau sur le cardinal 23, qui, à Lourdes, a dit, si cette loi passait, on aurait affaire à un mariage de quelques-uns imposé à tous, puisqu'en effet, il s'agit, je vais y revenir, d'une modification certainement très substantielle du mariage. Alors, voilà la question que je pose. Est-ce qu'un pouvoir politique a le droit, il est de ses compétences, de redéfinir le mariage ou de l'ouvrir? De l'ouvrir. Est-ce qu'en l'ouvrant, on ne le casse pas? Par exemple, dans la loi elle-même, Madame Taubira explique que le Code civil va être expurgé de toute notion de père et de mère, de grand-père et de grand-mère. Alors, on peut en effet écrire toutes les lois qu'on veut, mais est-ce qu'il relève d'un pouvoir politique de faire comme si père et mère n'existaient plus? Alors, le mariage, c'est tout de même une réalité assez circonscrite, même s'il n'y a pas de définition dans le Code. Je prendrai la définition que vous trouvez dans la revue Études de Madame Françoise de Crevoyer Desfossés, dans la revue Études du mois de novembre. Le mariage, dit-elle, a pour fonction première d'organiser la filiation et de reconnaître officiellement une lignée aux hommes. Où le grand rabbin Bernheim décrit le mariage comme cette institution qui articule l'alliance de l'homme et de la femme avec la succession des générations. Donc, il y a sûr une généalogie aux générations qui viennent. À partir du moment où, évidemment, on ouvre, pour employer l'expression de Mme Taubira, le mariage à des personnes du même sexe, est-ce qu'on ne modifie pas substantiellement la nature même du mariage au point d'en faire quelque chose d'autre? À quoi on répondra? Et c'est ma troisième interrogation, mais le projet de loi n'est pas simplement soumis à l'opinion publique ou à des lobbies, il répond à un souci de justice et d'égalité. Et Madame Taubira, dans cet entretien de La Croix du 11 septembre dernier, écrit ceci: « Le mariage pour tous répond à une exigence d'égalité ». Alors, c'est évidemment un argument impressionnant. Dans une société démocratique qui met parmi les valeurs centrales non seulement la liberté et la fraternité, mais aussi l'égalité. Donc, dans une société égalitaire, si on arrive à faire passer un projet de loi sous le label d'égalité, on a évidemment un argument extrêmement fort. Mais est-ce que justice et égalité sont significatifs, sont équivalents à égalitarisme? Autant que je sache, ayant lu en effet un auteur tout à fait démodé qui s'appelle Aristote, l'égalité consiste à traiter également des choses égales, la justice à traiter également des choses égales, l'inégalité à traiter inégalement des choses égales ou également des choses inégales, et l'injustice consiste à traiter des choses inégales également ou des choses égales inégalement aussi. Or, que je sache, il y a tout de même une différence forte entre mariage hétérosexuel et union homosexuelle qui ne sont pas équivalents. Et donc, on ne peut pas les mettre sur le même terrain. Bon, ce n'est pas la peine de développer très longtemps. D'un côté, il y a en effet possibilité de création, il y a différenciation sexuelle, il y a enjeu pour l'avenir de la société. Alors, je crois qu'il faut bien noter, parce que les débats actuels sont en effet vifs et quelquefois irrationnels, le mariage que je viens de définir, ce mariage qui n'est pas égal à une union homosexuelle, ce mariage est ouvert à tous ceux qui veulent entrer dans cette institution et rentrer dans cette définition. Il est ouvert non pas sur la base d'une orientation sexuelle, ça c'est extrêmement important, ni même sur la base de l'amour mutuel. Et récemment apparu dans Le Monde un article d'Olivier Roy disant « L'Église catholique est piégée parce qu'elle a mis en avant l'idée d'amour et aujourd'hui les gens disent « Mais on s'aime, donc il n'y a pas de raison qu'on refuse le mariage. » Que je sache, au moment du mariage dans une église, on ne demande pas au conjoint s'il s'aime. D'ailleurs, sur quels critères pourrait-on se baser? On leur demande s'ils veulent prendre pour époux ou épouse un tel ou une telle. On ne s'avance pas beaucoup plus. Et, heureusement qu'on en s'en tient là. On se base sur une volonté de vie commune. Est-ce que vous voulez prendre pour époux et pour épouse une telle ou un tel? Et ce qui suppose vie commune, accueil à l'enfant. Et on pourrait dire que cette société, cette micro-société qui est une famille, un mariage et une famille, elle a une spécificité dans l'ensemble des relations sociales, qui sont l'entreprise, qui sont l'école, qui sont les hôpitaux. Sa spécificité, c'est précisément celle-là. Ce qu'elle fait et que nul autre ne fait, c'est à la fois d'avoir une petite communauté de vie, une petite société, et de donner le jour à de nouvelles générations. Si on ne soutient pas cette définition de l'institution, alors le risque est grand que l'on privilégie les attentes des individus. On dira, les gens s'aiment, il n'y a pas de raison de leur refuser. C'est-à-dire qu'on s'appuie effectivement sur des attentes individuelles et sur la volonté de l'individu. Or, il me semble que le souci de l'égalité et de la justice dans une société, ça va être d'ailleurs mon quatrième point, c'est précisément de favoriser la société dans son ensemble et son avenir. On pourrait dire beaucoup de choses sur le problème démographique en Europe, n'est-ce pas ? Sur le fait que nous sommes des vieux, malgré tout. Et pourquoi ? Et nous voyons bien les problèmes que ça pose. Énormes. Alors, je crois qu'un pouvoir politique, il doit bien entendu viser l'égalité, viser la justice, mais dans la perspective de l'avenir de cette société. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'il ne peut pas traiter également une union homosexuelle qui, par définition, ne sera pas féconde et une union hétérosexuelle qui, au moins en principe, devrait l'être. Alors, cela me conduit à ma quatrième interrogation. Quel est le sens, finalement, d'une loi ? D'une loi posée par le législateur ? Il me semble qu'il faut beaucoup insister sur cette idée qu'une loi, c'est pas seulement c'est pas seulement une disposition posée par un législateur, ça c'est le positivisme juridique que j'ai indiqué dans mon première partie. Moi, président, je décide de. Ça c'est le positivisme juridique. Du moment que l'autorité légitime l'a posée, la loi est bonne, est juste, et on doit s'y soumettre. Est-ce si sûr ? Alors ce serait Hobbes, effectivement, l'absolutisme politique, c'est ça, le souverain décide et on suit. Il décide évidemment pour le mieux, mais c'est lui qui décide. Or, la loi a une autre signification que j'appellerais symbolique. Elle est le lieu où une société se dit à elle-même ce qu'elle est et ce qu'elle veut. Bien au-delà du positivisme juridique où le souverain décide de lui-même de la loi et, je dirais, inconditionnellement. Une société se dit à travers la loi. Je vais prendre un exemple tout idiot. Le code de la route, c'est une loi minimale, mais c'est quand même un règlement. Mais le code de la route nous dit quelque chose sur notre société. Nous ne voulons pas que les gens se fracassent le crâne à tous les carrefours et donc nous imposons des interdits pour permettre une circulation aussi régulée que possible. Cela veut dire que nous avons un souci d'ordre, un souci des personnes humaines, nous voulons éviter les accidents, etc. Nous voulons que les gens puissent circuler librement sans risquer leur peau à tous les carrefours. Donc ce code qui paraît purement ridicule, pourquoi il faut s'arrêter au feu rouge plutôt que l'inverse au feu vert, en fait il a une signification anthropologique et sociale tout à fait considérable. Alors si c'est vrai évidemment dans le cas du code de la route, à combien plus forte raison dans le cas du mariage ? Or le projet de loi suit une pente qui est tout à fait redoutable dans les sociétés modernes, c'est celle de l'indifférenciation. celle de l'indifférenciation sur la base de l'intérêt de l'individu. Il est clair qu'on met sur le même plan la relation d'un homme et d'une femme et la relation de deux hommes et de deux femmes. Ce qui nous conduit à dire qu'on banalise les rapports de l'homme et de la femme en les mettant sous l'étau d'une égalité stricte, c'est-à-dire d'un égalitarisme. Par là même, non seulement on aboutit à une indifférenciation, mais on valorise le désir individuel qui prime, alors on y reviendra tout à l'heure, je pense, dans l'autre intervention, sur le droit de l'enfant à avoir père et mère, un argument que je ne vais pas développer. Mais là encore, on pourrait se demander, et beaucoup se l'ont demandé, si les adultes ne préemptent pas, au nom de leur propre prétendu droit au mariage, à l'ouverture du mariage, la condition de l'enfant. On pourrait sans doute reprendre ici les analyses qu'a fait le philosophe allemand Habermas, dans un livre très impressionnant qui s'appelle « Vers un humanisme libéral », où il affirmait avec force que les parents n'ont pas le droit d'intervenir sur la génétique de leurs propres enfants pour en disposer. L'enfant doit être reconnu dans son autonomie. Alors, je me demande si là, il n'y aurait pas aussi quelque chose à dire. Alors, il est tout à fait clair que le pouvoir politique doit répondre aux attentes de la société. Il doit analyser ses attentes, les attentes des groupes et des individus. Et il est tout à fait possible que dans le problème qui nous concerne, le pouvoir politique en vienne à aménager le Pax. D'ailleurs, le rabbin Bernheim fait des propositions dans son texte. On peut aménager le Pax pour faire droit aux demandes légitimes d'un certain nombre de gens, mais ça ne peut pas être, me semble-t-il, au détriment de la vitalité de la société et de l'avenir de cette société et de l'atteinte à une société qu'est la famille et le mariage, qui est tout à fait essentielle dans toute société humaine vivante. Alors, je crois qu'on peut en effet s'inquiéter, mais la loi pourra être modifiée, et peut-être même annulée, on n'en sait rien, ou transformée fondamentalement, on peut s'inquiéter d'un pouvoir politique qui semble livré au libertarisme, c'est-à-dire qui a pour guide les attentes des individus et leur satisfaction. Et ce qu'on peut craindre en effet dans cette affaire, c'est que ce soit les individus qui fassent la loi, leurs désirs, leurs attentes, exprimées avec force et avec manifestation publique, et que le pouvoir public s'aligne et se disparaisse, s'efface devant l'indifférenciation. Et le sujet pourrait être développé beaucoup plus. Beaucoup d'analyses ont été faites comme une des maladies de la société moderne, qui est la maladie de l'indifférenciation. Tout s'égale, tout se vaut, tout est à mettre sur le même plan. Alors, c'est très beau de dire on ouvre le mariage, mais ça veut dire qu'en fait, on risque bien tout simplement de le casser. Or, comme nous le savons, et les anthropologues nous l'ont montré depuis longtemps, l'indifférenciation est une source de chaos. Parce qu'on ne sait plus finalement à quoi s'en tenir, les repères ont disparu, tel couple vaut tel autre, alors que, me semble-t-il, la disposition de la loi devrait éviter ce genre de choses. Alors, je termine simplement par une remarque. Dans tout ceci, et c'est le philosophe qui parle, il faut faire attention au trafic de langage. Au trafic de langage. Par exemple, mariage pour tous est évidemment un mensonge. La loi de Madame Taubira exclut le mariage pour les mineurs, pour la relation entre un père et sa fille, ou une mère, etc. Elle énonce un certain nombre d'interdits. Donc le mariage n'est pas ouvert à tous. Ça, c'est un slogan politique dans lequel il ne faut pas être piégé. J'ai parlé tout à l'heure du slogan de l'égalité. On risque bien de confondre l'égalité au sens propre du terme et noble avec l'égalitarisme. Et de même, une philosophie politique qui fonctionne aux promesses me paraît extrêmement redoutable parce que c'est attendre d'un pouvoir d'un homme, finalement, des attentes qu'il ne pourra jamais remplir, puisqu'il peut vous promettre tout ce que vous voulez. Je dis, c'est un peu comme un Père Noël qui vous promettra dans un mois de remplir vos petits souliers au bois de la cheminée. C'est pas comme ça qu'on peut faire une politique. Alors, je crois qu'il est grave de, on pourrait dire aussi, l'homoparentalité. Est-ce qu'il y a une homoparentalité ou une parenté tout court, qui est en effet le résultat d'une union d'un homme et d'une femme. Bref, ce sont des questions que je me pose. Je crois qu'elles sont assez liées les unes aux autres. Je ne prétends pas du tout avoir couvert l'ensemble du problème, ni non plus de convaincre ceux qui tiennent à d'autres positions. Mais je crois qu'il faut bien regarder ces arguments qui, me semble-t-il, ne sont pas d'un mince poids. Merci beaucoup.
Merci, Paul Valadier, de nous avoir partagé ces questions que vous vous posez sur ce projet, concernant notamment les prérogatives d'un pouvoir politique, comment il porte le souci de la chose publique dans son ensemble, au-delà notamment du pouvoir des minorités, la compréhension du souci de la justice et de l'égalité, le sens d'une loi, quel est le sens d'une loi avec le rôle symbolique de la loi où une société se dit à elle-même, et puis c'est aussi le risque de cette indifférenciation de l'homme et de la femme sur lequel tu as insisté, autant de points sur lesquels nous pourrons débattre tout à l'heure. Mais comme je le disais il y a un instant, il est important de pouvoir avoir le regard d'une juriste sur ce projet, et je laisse en plus attendre la parole à Madame Le Boursicot.
De voir ce soir. Et donc, je vais vous exposer un point de vue différent, puisque c'est un point de vue de juriste que je vais exposer maintenant. Et je vais m'attacher essentiellement aux conséquences relativement à la filiation, au droit de la filiation de ce projet. L'avant-projet a déjà suscité de nombreux commentaires, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup d'analyse des conséquences juridiques. Le texte, nous l'avons, vous l'avez eu, il est d'ailleurs sorti sur le site de l'hebdomadaire catholique La Vie, et ce texte fait se poser beaucoup de questions aux juristes également. Ces dispositions qui sont relatives au mariage, qui sont relatives à l'adoption et au nom de famille, sont à la fois claires, parce qu'elles répondent à la volonté affichée par le titre de l'avant-projet, ouvrir le mariage aux couples de même sexe et ouvrir l'adoption. Donc ça, c'est assez clair. Mais en réalité, cet avant-projet comporte également toute une série d'articles qui visent à mettre en cohérence le vocabulaire du Code civil, c'est-à-dire qu'on remplace le père, la mère, d'ailleurs par un pluriel, les parents, d'ailleurs première interrogation, parce que c'est comme si on avait une entité indifférenciée des parents et plus un père et une mère. Et ceci, donc la réforme, le projet de réforme, prévoit ce changement de vocabulaire lors de l'établissement des actes de l'état civil, des actes de naissance, des actes de mariage, des actes de décès, pour définir les obligations des époux entre eux, les règles du consentement au mariage, et cette modification de vocabulaire concerne également les règles successorales, celles de la filiation adoptive et celles de l'autorité parentale. Donc c'est tout un champ du droit qui est concerné, et pas seulement le mariage et l'adoption. Mais, et ça c'est très important, le toilettage qui se veut exhaustif, et je me suis rendu compte en étudiant de près le texte qu'il n'est pas complet, le toilettage, il n'a pas été très bien fait, il n'a pas été fait jusqu'au bout. En tout cas, ce toilettage, ce changement de terminologie, ne s'applique pas au titre 7 du livre 1er du Code civil, qui est intitulé « La filiation ». Dans ce titre, il ne porte que sur le nom de famille. Donc, première conséquence, il est clair que pour le moment, du moins, ce projet du gouvernement n'entend pas modifier les règles relatives à l'établissement de la filiation non adoptive et également à la contestation de la filiation. Mais cette absence de règles et ne touche pas à la filiation, ça fait réagir, bien sûr, les associations qui se disent d'homoparents, dont vous parliez tout à l'heure, les lobbies dont vous parliez tout à l'heure, qui réclament, outre l'accès à l'assistance médicale à la procréation ou la procréation médicalement assistée, le Code civil emploie les deux. Donc, ces associations réclament à la fois l'instauration d'une présomption de parenté en faveur du conjoint du parent, ce qui éviterait, bien sûr, puisqu'il y aurait présomption, le conjoint du parent serait présumé parent, comme dans la présomption de paternité, le mari est présumé être le père de l'enfant, ça leur éviterait de passer par la case adoption et donc de demander au tribunal de prononcer l'adoption de l'enfant. Alors, c'est pour ça qu'on va voir déjà les conséquences au point de vue de la filiation du projet tel qu'il est, mais on va voir aussi les conséquences de ce que certains voudraient et de ce qui risque d'ailleurs d'arriver au Parlement par le biais des amendements et par le biais des débats parlementaires. Alors, les implications de l'avant-projet de loi. Eh bien, Il est un article pivot que le projet de loi n'envisage pas de bouger, de changer. C'est l'article 310 du Code civil. Je vous le lis. Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leur rapport avec leur père, au singulier, avec leur mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux. C'est l'aspect, justement, continuité généalogique qui vient de nous être expliqué. Retenons bien ces termes. Filiation légalement établie. Pour nous, les juristes, un père, celui qui a conçu, le géniteur, le père biologique, n'est pas obligatoirement le père. La mère non plus n'est pas, parce qu'elle a accouché, obligatoirement la mère. C'est difficile. Sachez que j'ai travaillé, que j'étais secrétaire générale du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles pendant 5 ans, et donc que j'ai beaucoup travaillé sur l'accouchement secret, et donc c'est une notion que je conçois parfaitement. J'ai rencontré ces femmes, j'ai travaillé sur ce sujet, donc c'est une notion. Toujours est-il que, en réalité, il y a toujours dans toute filiation un côté volontaire. J'explique. Les filiations génétiques, sociales, psycho-affectives, la plupart du temps, elles vont coïncider avec la filiation juridique. Mais pour nous, juristes, ce sont surtout des modes de preuve en cas de contestation de la filiation ou en cas de conflit de la filiation. Donc, toute filiation est une construction juridique et a en partie un caractère volontaire. La filiation, elle est assumée dans la plupart des cas, c'est-à-dire que, bien écoute, un couple donc, est composé d'un homme et d'une femme, fait un enfant, et donc, si le couple est marié, eh bien, la mère, celle qui accouche, puisque dans le droit positif français, c'est la femme qui accouche qui normalement est la mère, je vous rassure quand même. Mais ce n'est pas une obligation. Bon, elle est désignée à l'acte d'état civil, et dans ce cas-là, la réforme de 2005 a maintenu la présomption de paternité du père. La présomption de paternité, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que pendant des siècles, bon, la femme qui accouchait, c'était normal, c'est la mère. Bon, donc il n'y avait pas de doute là-dessus. Tandis que pour désigner le père, eh bien, c'était compliqué. Donc, en fait, on tirait du fait connu, le mariage, un fait inconnu, c'est-à-dire la paternité du mari. Et tout le code de 1804, mais qui s'inspirait du droit romain, fortement, tendait à dire que, effectivement, un couple, en se mariant, prenait un engagement. Les deux membres du couple prenaient un engagement l'un envers l'autre, mais ils prennent également un engagement vers vie, les enfants, à naître de la femme. Et ils ont une obligation d'entretien, d'éducation, enfin, c'est l'article du Code civil est répété. Et d'ailleurs, toujours, normalement, lors de la célébration du mariage civil, cet article du Code civil est cité. Bien. Donc, cette filiation a toujours un caractère volontaire, assumé. Puisque, en réalité, donc comme je le disais, une femme qui accouche peut encore aujourd'hui choisir d'accoucher sous secret, renoncer à la filiation. Elle peut aussi ne pas accepter d'être désignée à l'état civil sans pour autant demander le secret, et juridiquement, elle n'en sera pas la mère. Et pour un père, eh bien, s'il est le mari, il est présumé être le père. Si, effectivement, il n'est pas marié avec la mère, il devra reconnaître cet enfant, donc faire un acte de volonté pour que la paternité soit établie. Et d'ailleurs, jusqu'en 1912, j'en parle aujourd'hui parce qu'on a tous eu l'écho d'une action en recherche de paternité, donc c'est un petit peu le moment d'en parler, jusqu'en 1912, on ne pouvait pas contraindre un homme à devenir le père d'un enfant hors mariage. C'est-à-dire que l'action en recherche de paternité n'existait pas. Et puis après, il y a eu les 5 cas, etc. Mais enfin, c'est assez compliqué. Maintenant, c'est tout à fait ouvert. Mais c'est un droit. L'action en recherche de paternité n'est pas si vieille que cela. Bien. Donc, comme je le disais, à côté de cette filiation assumée, on peut avoir une filiation intentionnelle, qui, en cas de procréation médicalement assistée, donc ça c'est les lois bioéthiques des années 94, donc la procréation médicalement assistée, on y reviendra tout à l'heure, et la filiation peut également être choisie, et alors là c'est encore plus un acte de volonté en cas d'adoption. Revenons à notre article 310 du Code civil. L'article 310 du Code civil, tous les enfants dont la filiation est également établie ont des devoirs et des obligations envers leur père et envers leur mère, eh bien, pose le principe de l'altérité sexuelle de la filiation. C'est un article pivot. Et d'ailleurs, c'est au visa de cet article que la Cour de cassation a rendu, le 12 juin dernier, deux arrêts très importants. Je vous explique, les affaires sont similaires. Deux couples d'hommes. Un couple, l'un vivant au Royaume-Uni, l'un des hommes est britannique, l'autre est français. Dans la deuxième espèce, ils vivent au Canada. Ils ont tous deux la double nationalité française et canadienne. Ils ont, ces couples, obtenu dans leur pays de résidence le prononcé d'une adoption en faveur de l'enfant qu'ils aiment. Et ils demandent à la juridiction française de reconnaître cette décision étrangère d'adoption. Alors, je passe sur les détails, le tribunal de Paris dit oui, le dit non, la cour d'appel dit oui, et la cour de cassation va casser cet arrêt, c'est-à-dire elle va refuser. Et pourquoi et comment la cour de cassation refuse? Elle ne dit pas, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas mariés, c'est intéressant. Donc elle refuse de reconnaître cette adoption conjointe, alors que le Code civil français dit que normalement pour adopter conjointement un enfant, il faut être marié. Là, elle ne dit plus cela, ce n'est plus un principe essentiel du droit français, mais la Cour de cassation se réfère à l'article 310 du Code civil et elle dit qu'il est contraire à un principe essentiel du droit français d'inscrire sur les registres de l'état civil un enfant comme né de parents de même sexe. 7 juin 2012. Ça veut dire quoi, ça? On était déjà en plein débat sur le mariage homosexuel et l'adoption pour les couples homosexuels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en quelque sorte, la Cour de cassation, par ses deux arrêts, on ne peut pas l'interpréter autrement, a lancé un message, a laissé un message. Et maintenant, on peut se demander si le message est passé. Je répondrai peut-être que oui, quand même. Parce que les rédacteurs de l'avant-projet sont très hésitants. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On ne touche pas à ce bloc qu'est le titre de la filiation. Ils n'ont pas franchi le Rubicon. Ils ne proposent pas de modifier les textes du Code civil relatifs à la filiation. Ils ne proposent pas la modification de l'article 310 du Code civil. Ce qui va d'ailleurs nous poser des problèmes. À nous, juges, si le texte est voté en l'état, parce que comment on va faire pour prononcer l'adoption plénière d'enfants par des couples de même sexe, par des personnes du même sexe? Qu'est-ce qu'on va en faire à l'état civil? Bon, vous voyez, pratiquement, ils n'ont pas franchi ce pas. Mais, en ouvrant le mariage aux couples de même sexe, le texte leur permet indéniablement non seulement d'adopter l'enfant du conjoint, ce qui sera dans les faits l'hypothèse la plus fréquente, et ce pourquoi d'ailleurs les associations ont revendiqué. Le Pax n'autorise pas à l'heure actuelle, on ne peut pas adopter l'enfant de son partenaire, donc ce n'est pas prévu. Bien. Mais le couple marié pourra adopter conjointement un pupille de l'État ou un enfant né à l'étranger. Vous avez vu les commentaires, je ne m'appesantirai pas là-dessus. On est actuellement à 1600 adoptions internationales par an, alors qu'on a été jusqu'à 4000 dans les années 2000. Le nombre de pupilles de l'État, c'est 700 à 800 par an. Il est évident que l'adoption est un... c'est tant mieux, parce que ça veut dire que les enfants étrangers trouvent des familles dans leur pays d'origine. Mais c'est un fait que l'adoption internationale, c'est pas là-dessus que compte d'ailleurs... les associations d'homoparents pour créer famille. Elles comptent plutôt sur la PMA, d'où leur revendication de ce côté-là. Toujours est-il que, en cas d'adoption plénière, donc, l'adoption plénière donne à l'enfant un seul père et une seule mère, les adoptants, enfin jusqu'à présent, les adoptants qui sont inscrits à l'état civil comme les parents. puisque la filiation adoptive se substitue à la filiation d'origine. Alors que dans l'adoption simple, l'adoption correspond à un lien de filiation additif au lien d'origine qui va s'inscrire en marge de l'acte de naissance de l'adopté. C'est-à-dire que l'acte d'état civil d'un enfant adopté plénièrement, c'est comme l'acte d'état civil de toute personne. Il est né à le tel jour, etc., etc., il y a le nom du père et il y a le nom de la mère. Pour un enfant adopté simple, s'il a une filiation légalement établie d'origine, c'est celle-ci qui figure dans le corps de l'acte de naissance et la mention de l'adoption est portée en marge. Donc, néanmoins, même en ne supprimant pas le 310 du Code civil, les auteurs du projet proposent de modifier l'article 34 du Code civil, c'est-à-dire que les actes de l'état civil, les actes de naissance et de reconnaissance, ne comprendraient plus les mots père et mère, on balaye, on remplace par le mot parent. Alors, parent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au pluriel, c'est quand même un petit peu gênant parce qu'à un moment donné, il va bien falloir distinguer entre les deux individus. Ce n'est pas une entité, les parents. Et donc, le texte qui modifie tout cela vise à modifier l'ensemble de l'état civil. Donc il va bien falloir avoir des mentions telles que parent A ou parent B ou parent 1 ou parent 2. Je n'ose imaginer les affres des officiers d'état civil, mais voilà. Bon. Alors, et puis le fait d'employer parent et pas de dire deux parents, c'est un petit peu gênant parce que à la limite, on peut se dire qu'à la limite, pourquoi pas trois, pourquoi pas quatre? Vous voyez les interrogations que nous avons, nous juristes, qui... Bon. Au-delà, on peut s'étonner de ce tour de passe-passe qui va impliquer l'état civil de chacun d'entre nous. Car gommer l'altérité sexuelle de l'affiliation à l'état civil, c'est un acte plus que symbolique, enfin très symbolique, mais même au-delà. Finalement, chacun d'entre nous ne serait plus né d'un père et d'une mère, et l'affiliation serait monosexuée. Alors, ça c'est le projet. On peut s'interroger sur la nécessité de réformer l'ensemble de l'état civil sans pour autant oser modifier le droit de l'affiliation. Alors, certains le disent, et donc les détracteurs, puisqu'il y en a de l'autre côté, parce que c'est un projet où ça va pousser des deux côtés, détracteurs, ceux qui trouvent que le projet de loi, l'avant-projet, ne va pas assez loin, eh bien, affirment, je reprends un article commun à Irène Théry, aux sociologues, Laurence Brunet, juriste, Martine Gross, sociologue, et Jennifer Marchand, qui est paru sur le site internet du Monde le 18 septembre. Elles écrivent, en parlant du projet, autant il est cohérent en matière de couple, autant il paraît hésitant, contradictoire, incertain et au bout du compte illisible en matière de filiation. C'est pas tout à fait inexact, vous l'avez bien compris. Mais dans quel sens ira le législateur? Fera-t-il un pas en arrière sur la filiation pour revenir à une véritable altérité sexuelle, y compris dans l'état civil, ou au contraire en avant? Alors il semblerait que les juristes des ministères, j'ai lu beaucoup les articles de journaux, planchent sur une transcription de la présomption de paternité, donc le mari est présumé être le père de l'enfant, en présomption de parenté, donc au bénéfice du conjoint, donc de l'homme ou de la femme. Vous savez que j'en suis au point où j'emploie les expressions le parent homme et le parent femme. Si je ne veux pas me tromper. Non, mais c'est la seule solution. Parce que donc les parents hommes, les parents femmes. Bref, c'est vrai que ça commence. Que parfois, quand je suis en train d'écrire ou réfléchir au sujet, je me dis, mais il va falloir qu'on change tout notre vocabulaire. Bien. Alors, examinons ces deux points. La présomption de parenté et la procréation médicalement assistée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la présomption de paternité, elle existe, 312 du Code civil, ils l'ont même maintenue au même numéro, en 2005, elle persiste. Cette présomption n'a plus la force qui était la sienne dans le Code de 1804, car à partir du moment où la preuve a pu être rapportée par l'examen des sangs d'abord, puis par les comparaisons des tests, des empreintes ADN, que le fait présumé, donc la paternité du mari, était fausse, eh bien, la présomption s'est affaiblie. Loi du 3 janvier 72, jurisprudence, et puis la paternité, pouvant désormais être établi à coup sûr, enfin la paternité, entre guillemets, biologique, la présomption cède désormais devant la preuve biologique contraire. Et cette présomption, il y a des arrêts de la Cour de cassation de l'an 2000 qui ont affirmé que la recherche, l'expertise par ADN était de droit. C'est-à-dire que même si le père recherché peut le refuser, cette recherche ADN, comme on l'a appris aujourd'hui sur toutes les radios, en tout état de cause, tout tribunal a l'obligation de l'ordonner et de tirer des conséquences de droit d'un refus éventuel de monsieur en question. Alors, il n'a jamais, en revanche, existé de présomption de maternité. La mère est celle qui accouche, c'est un fait connu qui n'a pas été présumé. Par ailleurs, toute paternité peut être contestée en rapportant la preuve, soit que la mère n'a pas accouché de l'enfant, soit que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. En réalité, on le voit, notre droit d'affiliation, jusqu'à présent, s'appuie donc sur la vérité biologique, tout en tenant compte de ce que j'ai appelé, moi, dans mes études de droit, la vérité sociologique, la réalité sociale, c'est-à-dire ce que nous appelons la possession d'État, le fait de porter le nom du père ou de la mère, le fait d'être élevé par lui et le fait d'être traité, considéré comme l'enfant d'un homme ou d'une femme, ou d'un homme seulement ou d'une femme seulement. Alors, la PMA. La PMA a un caractère un peu particulier parce que dans le cadre d'une PMA, la présomption, la volonté à procréation médicalement assistée. Procréation médicalement assistée. Donc, dans le cadre de la PMA, la volonté du père intentionnel va occulter la vérité biologique. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet. Il faudrait prouver que l'enfant a pour géniteur un autre que le donneur pour faire tomber la paternité du père intentionnel. Enfin, c'est un peu compliqué. Toujours est-il qu'on voit bien... Toujours est-il... Non, mais c'est intéressant parce que toujours est-il qu'on voit bien que dans ce cas-là, on fait comme si le père intentionnel, celui qui, en couple, recourt à la PMA avec son épouse ou avec la personne avec laquelle il vit, puisqu'il faut 2 ans de concubinage de vie commune pour avoir accès à la PMA, on voit bien que son engagement va suppléer à toute vérité biologique. Mais ça ne profite qu'aux hommes. D'ailleurs, ce texte dit celui, etc., il engage sa responsabilité envers la mère. Dans le cas de don d'ovocytes ou d'accueil d'embryon, c'est la mère biologiquement, la mère est biologiquement et juridiquement celle qui accouche, donc on n'a pas ce problème de fiction à introduire dans la filiation. Alors, introduire la procréation médicalement assistée, c'est donc favoriser les couples de femmes, donc c'est une autre forme de discrimination. Alors, pour les hommes, il n'y aurait que la gestation pour autrui, qui pose d'autres problèmes éthiques, vous en avez peut-être déjà débattu, mais ce n'est pas envisagé pour l'instant. Alors, on comprend bien que les associations et les sociologues qui sont détracteurs du projet Taubira souhaitent, avec l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes, l'instauration d'une présomption de maternité de la compagne de la mère. Car dans ce cas, pas besoin de demander au tribunal de prononcer l'adoption, puisqu'elle serait automatiquement désignée, présumée être la mère, l'épouse. L'épouse de la femme. Non mais, la deuxième femme. Bon. C'est un peu compliqué. Mais deuxième avantage, double avantage, comme en matière d'accès à la procréation médicalement assistée, on n'exige pas le mariage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. 2 ans de vie commune, double avantage, on évite de se marier pour accéder à la PMA, donc à concevoir un enfant, et on évite l'adoption. Donc en fait, ouvrir la PMA, ça permet de ne pas se marier pour faire un enfant. Bon, voilà. Et là, je dois dire que le décrochage revendiqué avec la procréation et la réalité de l'accrochement devient total. Mais selon les auteurs précités, il est temps de refuser le modèle pseudo-procréatif de la filiation et d'énoncer les grands repères fondant un nouveau droit de la filiation à la fois commun et pluraliste. Alors, je vais terminer par là, parce que je vois que je n'aurai pas le temps de vous faire un petit peu de droit comparé, mais peut-être que dans le débat, je vous expliquerai. Voilà. Alors, selon les auteurs que j'ai cités tout à l'heure, la filiation pourrait désormais être établie selon trois modalités différentes. L'engendrement procréatif, je m'engage à devenir le parent de cet enfant parce que je l'ai fait. C'est la reconnaissance. Deuxièmement, l'adoption. Je m'engage à devenir le parent de cet enfant que je ne prétends pas avoir fait et qui était de son côté privé de filiation. Troisièmement, l'engendrement avec tiers d'honneur. Je m'engage à devenir le parent de cet enfant conçu ou grâce au don d'un tiers et cela que j'ai moi-même procréé ou pas. Dans ce cas, c'est par un engagement public et non plus secret devant le juge et le notaire qu'un couple hétérosexuel infertile ou un couple homosexuel ayant recours à l'assistance médicale à la procréation établirait par avance la filiation de l'enfant. Moi, je dis tout de suite, mais comment on pourrait faire coexister ces trois types de filiation sans créer des discriminations entre les enfants? Parce que celui qui serait engendré par ses parents peut toujours être abandonné ou renié par eux. L'homme père peut contester sa paternité, ou bien ce serait la femme mère ou un autre homme, se prétendant le père, qui pourrait contester. Les conflits de filiation, vous savez, nous, les tribunaux, bon, on n'en parle pas souvent, on en parle aujourd'hui, là, de cette action en recherche de paternité, on est vraiment, encore une fois, dans l'actualité, les conflits de filiation ne cesseraient pas. Et finalement, pour résoudre ces conflits de filiation, à quoi doit-on se résoudre maintenant? On fait un test ADN et où on se réfère essentiellement à la possession d'État quand elle a duré 5 ou 10 ans. Et finalement, je dis que l'enfant qui aurait cette filiation, la première, la filiation classique, serait discriminé par rapport à celui voulu par un couple de femmes qui ne pourrait pas se soustraire à leur engagement de maternité. Mais la question, c'est si ce couple de femmes se sépare, qu'est-ce qui va se passer? Dans les tribunaux, on sait bien que les fausses reconnaissances paternelles qui sont souscrites lors du mariage avec la mère de l'enfant, sont bien souvent remises en cause lors du divorce. Et quant à l'adoption dans ce schéma, pourquoi obliger les parents adoptifs, puisque les autres n'y seraient pas obligés, pourquoi obliger les parents adoptifs à demander l'agrément pour adopter? Je vois poindre les revendications, et pourquoi les obliger à passer devant un juge? Enfin, vous voyez, on est obligé de tout repenser, et il n'y a plus aucune cohérence. C'est pour ça que je comprends que la chancellerie hésite à s'engager dans cette voie, parce que ouvrir la voie de la procréation médicalement assistée, c'est ouvrir une boîte de Pandore. Et si on va au-delà, et j'en terminerai par là, si on institue des présomptions de parenté au sein du couple homosexuel, présomptions qui ne reposent pas sur la vérité biologique de la conception et de la naissance, là, je crois qu'on en est... je crois qu'on ne peut dire que c'est incohérent. On ne peut pas construire ça. Et puisque je n'ai pas le temps de tout dire, je vais quand même vous expliquer, c'est quand même intéressant, cet avant-projet de loi, l'exposé des motifs, ne fait pas d'études de droit comparé. Ne se réfère pas à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Pourtant, c'est une tradition de le faire. Bon, peut-être que les débats parlementaires permettront cette ouverture sur le droit comparé. Moi, je n'ai pas eu le temps d'étudier tout le droit comparé. Je me suis penchée sur les premières lois qui admettent, qui dans le temps ont admis le mariage des personnes de même sexe et l'adoption par ces personnes. C'est-à-dire la loi californienne et la loi néerlandaise. Aux USA, lorsqu'il y a adoption de l'enfant de la partenaire ou de la conjointe, eh bien, à l'état civil, la mère reste la mère et l'adoptante est désignée comme parent. Tout simplement. Donc, avec, si vous voulez, sans référence au sexe de ce parent. Et on nous cite souvent législation néerlandaise. Aux Pays-Bas, le mariage pour les homosexuels, c'est 2001. Et c'est très intéressant parce que, en réalité, dans le droit néerlandais, il n'y a pas de différence juridique entre les mariages homosexuels et les mariages hétérosexuels. Mais la filiation dans les mariages homosexuels n'est pas automatique. La mère légale de l'enfant est sa mère biologique, c'est-à-dire celle qui accouche, comme dans le droit français. Le père est en principe l'homme qu'elle a épousé lorsque l'enfant est né, et en tout état de cause, le père doit être un homme. L'autre partenaire ne peut devenir mère légale que par l'adoption. Et ce n'est que dans le cas où le père biologique ne devient pas un parent, par exemple en cas de don de sperme, donc il ne devient pas père, une filiation n'est pas établie, que les deux épouses obtiennent automatiquement l'autorité parentale. L'autorité parentale, pas la filiation. Et j'en terminais, et là c'est vraiment ma conclusion, je crois que en réalité, ce dont on s'aperçoit, c'est que dans le droit californien, comme dans le droit néerlandais, on n'est pas dans cette confusion qu'on rencontre de plus en plus en droit français, chez les juristes ou ceux qui soutiennent l'être. C'est-à-dire la confusion entre la filiation qui définit l'état civil de la personne, qui fait que l'enfant est un sujet de droit, et la parentalité qui s'exerce au quotidien, généralement envers un enfant mineur, c'est soigner cet enfant, c'est l'entretenir, l'éduquer, c'est s'occuper de lui, et cette parentalité ne correspond pas forcément à la notion juridique de la filiation. C'est ce que nous appelons l'exercice de l'autorité parentale, mais ça n'a rien à voir avec ce lien que crée entre un enfant qui deviendra adulte et par ailleurs deux adultes, normalement l'un dans la ligne paternelle et l'autre dans la ligne maternelle.
Voilà, merci Marie-Christine de Boursicot. S'il est un peu compliqué pour les juristes, déjà, nous l'avons senti parfois de vous y retrouver, combien plus pour ceux qui n'ont pas fait leurs études de droit. Merci en tout cas d'avoir mis en lumière les conséquences que vous percevez et ce que moi j'ai pu en comprendre de cet avant-projet, les conséquences, les points non réglés. On pourrait peut-être dire les ambiguïtés pour l'instant de cet avant-projet, liées notamment au changement de terminologie sur les questions si fondamentales de la filiation. On aura sûrement l'occasion dans le débat qui va s'ouvrir maintenant peut-être de vous faire préciser tel ou tel point, et peut-être serait-il intéressant à cet égard que vous nous disiez ce qui aurait pu manquer au PACS en vigueur actuellement pour peut-être répondre à certaines sollicitations sans remise en cause du mariage, d'un point de vue juridique. Alors, comme nous en avons l'habitude, nous allons passer maintenant au temps du débat. Je vais faire circuler, ou plutôt... Voilà, alors... On va prendre ici d'abord dans cette salle, et on verra si on peut prendre d'autres questions tout à l'heure dans l'autre salle, quelques questions, quelques réactions, convictions, de manière toujours brève pour qu'on puisse avoir le maximum d'échanges entre nous ce soir. Je crois qu'il y a une question devant. Voilà, monsieur.
Oui, bonjour, monsieur Cavillio. Je voudrais poser la question au père Valadier. Compte tenu des abstentions nombreuses, compte tenu du faible pourcentage de la population qui fait une élection,
parlez plus fort.
Du faible pourcentage qui fait une élection, est-ce que le gouvernement légal, vous le considérez aussi comme un gouvernement légitime, et par là même, a-t-il le droit de changer la loi sur des sujets fondamentaux?
Très bien, merci. On va continuer la cueillette des questions sur ma droite. Bon, voilà. Voilà.
Oui, ma question s'adresse au père Valadier. On nous a peu parlé de l'Évangile. Ce n'était pas nécessairement le sujet, mais je pense que le mariage homosexuel pose problème, notamment par rapport à l'Évangile et notamment par rapport au sacrement de l'Eucharistie, qui, me semble-t-il, est un sacrement qui est donné entre un homme et une femme.
Sacrement du mariage, vous voulez dire.
Le sacrement du mariage, excusez-moi. Le sacrement du mariage. Est-ce que sur ce terrain de l'Évangile et de la Bible, le père Valadier pourrait nous en dire un petit mot?
Voilà, on va reprendre, je fais le tour, gardez bien le bras, d'abord l'homme, puis la femme, pour que ce soit, il faut faire très attention ce soir, encore plus. Voilà, parlez bien fort.
Donc, bonsoir.
Merci.
Ce sera une question pour Madame Le Boursicot. C'est une question de droit comparé. Je n'ai pas tout à fait compris. Hein, je ne suis pas juriste.
Oui.
Imaginons que vous avez un couple de femmes donc homosexuelles néerlandaises, qui a un enfant, qui déménage en France. Ma question, c'est quel est le statut de cet enfant? Moi, je n'ai pas tout à fait compris. J'ai besoin d'explications. Merci.
Voilà, et puis Madame devant.
Bonsoir. En tant que militante familiale, ça fait déjà des années, plusieurs décennies, qu'on a observé qu'il y avait un glissement dans les mots. Les mots, ce n'est pas de la poésie. Les mots, ils ont une valeur, et une valeur juridique. J'ai moi-même, Madame Le Boursicot, été un peu choquée quand vous avez utilisé le terme de couple homosexuel, de même que je suis choquée quand on utilise le terme de famille monoparentale, non pas pour être discriminante, mais parce que les mots perdent totalement leur sens. Et ensuite, ça devient n'importe quoi. Si depuis le début, on n'utilisait pas le terme de couple, en serait-on là? Parce que quand on joue aux cartes, quand on a un homme et une femme, enfin, quand on fait deux rois, quand on prend deux rois et deux valets, c'est une paire qu'on utilise. C'est un duo, c'est n'importe quoi. Mais ça n'est pas un couple. Donc ce mot de couple, depuis le début, qu'il avait une valeur juridique, comment se fait-il que les juristes n'ont pas défendu ce terme qui maintenant, voyez-vous, vous y perdiez votre latin tout à l'heure.
Merci. Voilà, on va donner la réponse à nos invités. Peut-être Paul Valadier, gouvernement légal, légitime.
Oui, je crois que madame a tout à fait raison. C'était ma conclusion. L'importance du langage. Parce que le trafic de langage est quelque chose de très grave, et depuis toujours, Platon s'est heurté aux sophistes qui trafiquaient le langage. Bon, on sait que dans les régimes totalitaires, ce qui n'est pas le cas de notre régime à nous, je reviens encore là-dessus, on trafique les mots. C'est-à-dire que les mots ont un autre sens. Le pouvoir politique leur donne un sens qui s'impose aux citoyens. Donc vous avez parfaitement raison, je crois qu'il faut être vigilant, et malheureusement, on n'est pas toujours. J'ai dit du bien du titre tout à l'heure, mais le titre de notre soirée, c'est « Le mariage homosexuel ». Oui, y a-t-il un mariage homosexuel? Il y a une union homosexuelle. Déjà là, on a, n'est-ce pas, on a abandonné. On a conclu avant d'ouvrir le débat. Bon, mais enfin, c'est pour dire que vous avez raison. Et en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'il faut quand même faire attention à ça. Bon, alors la première question est évidemment tout à fait grave. Je crois qu'il faut voir qu'en système démocratique, un gouvernement qui est élu même par une minorité, il est élu s'il est fidèle à la législation en cours. S'il est élu par une minorité, je dirais que c'est la faute des abstentionnistes. Ils n'avaient qu'à aller voter. Et on ne peut pas prendre prétexte de ceux qui n'ont pas voté pour dire que ce gouvernement est illégitime. Ceci étant posé, évidemment, notre gouvernement est légitime, mais toutes les lois qu'il fait ne le sont pas nécessairement. Alors, il y a le problème de l'objection de conscience qui a été posée précisément à propos de cette loi. Et je dirais que l'objection de conscience, elle fait partie de la vie démocratique. Parce que si nous nous référons à la Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est la Déclaration de l'homme et du citoyen. Ce qui veut donc dire que l'homme est plus large que le citoyen. Donc le citoyen relève de la loi et de l'obéissance à la loi, mais il se peut que, parce que justement l'homme dépasse la cité, ça c'est un thème quand même assez chrétien, mais au-delà de ça, je crois tout à fait juste, eh bien, il est possible que certaines lois aillent contre sa conscience et qu'ils résistent à cette loi. Donc ça fait partie, je dirais, de la démocratie que de laisser ouverte la possibilité d'une désobéissance, hein, mais réglée par la loi. Alors, dans un certain nombre de cas, ici, je crois que ce n'est pas prévu dans le cas, ça poserait beaucoup de problèmes, mais on a vu des maires dire déjà, des maires MAI, RES. Dire bon, ça, le juriste pourra peut-être nous dire un mot là-dessus. Mais notre gouvernement, c'est parfaitement légitime, mais il est tout à fait possible qu'il vote qu'il fasse passer des lois qui, elles, soient contestables. Ça, c'est tout à fait clair. Mais ça fait partie aussi de la vie démocratique que de le dire et que de contester et d'entendre la réponse qui nous sera donnée. Bon, sur l'Évangile, je ne suis pas un exégète ni spécialiste de l'Évangile. On a reproché un peu à l'Église catholique ces derniers temps de parler le langage de l'anthropologie ou de la raison seule. Bon, je crois qu'elle a raison de le faire, parce que dans une société démocratique pluraliste, si vous campez tout de suite sur le terrain de la foi, on dira oui, mais ça vous regarde vous. Vous qui relevez de cette croyance, mais nous ça ne nous regarde pas. Or il s'agit d'un problème de société, nous l'avons bien vu. Alors est-ce que l'Église peut simplement dire l'Évangile nous dit que, pour les gens qui ne connaissent pas l'Évangile, il faut quand même pouvoir dire des choses inspirées par la révélation chrétienne sur le terrain même de la raison. Alors si vous regardez les textes des évêques, en effet ils sont, je crois, très justement prudents pour ne pas rentrer trop sur le terrain théologique, ce que fait peut-être avec un peu de maladresse le rabbin Bernheim. Mais si vous regardez de près, vous apercevez bien que leur inspiration, elle est totalement biblique. C'est-à-dire, c'est l'homme et la femme, c'est le respect de l'enfant, c'est tout ce que vous voudrez. Alors, ils pourraient faire un autre discours qui, je crois, ne changerait pas substantiellement, mais qui serait émaillé de citations bibliques, etc., si ça fait plaisir aux chrétiens d'entendre ce discours. Mais je crois qu'il est... c'est une tradition forte en théologie morale catholique que... de dire tout ce qui est dit au nom de la foi doit pouvoir être justifié au nom de la raison. Je crois que ça, c'est un point capital du point de vue catholique. De pouvoir dire, alors on le fait mal, on le fait comme on peut. Je trouve que là, ce qu'ils ont fait ces temps-ci était plutôt réussi. Parce qu'en même temps, vous comprenez, alors je réponds davantage à votre question, si l'on essaie de se placer sur le terrain biblique, le moins qu'on puisse dire, c'est que la Bible, me semble-t-il, n'est pas très favorable à l'homosexualité. Bon, pour pas dire plus. Alors, vous me direz, dans l'Ancien Testament, il y a tout. Il y a à boire et à manger, il y a des adultères, même ordonnés par Dieu. Bon, alors, il faut choisir. Le rabbin Barnheim choisit prudemment les deux premiers chapitres de la Genèse. Il dit, je m'occuperai pas du reste. Bon, c'est très bien. Mais, donc, c'est un choix. Alors, la grande difficulté, elle est là aussi, me semble-t-il, c'est que, qu'est-ce que vous allez faire dire au texte? Bon, si vous êtes homosexuel, vous allez dire « Ah, David et Jonathan, n'est-ce pas, qui s'aimaient beaucoup, bon, si on veut, la procréation médicalement assistée, oui, Abraham avec Agar, c'est bon. » Enfin, franchement, c'est pas très sérieux. On peut toujours se contenter en disant ça. Donc, je trouve que la position de l'Église catholique dans ce domaine est assez juste. Ça ne veut pas dire qu'on fait un discours purement rationnel, mais que si l'on entend bien ce qui est dit, je crois qu'on voit bien qu'il y a derrière ça une conception théologique de l'homme, de la famille, de la sexualité. Mais il est heureux qu'on puisse transcrire ça, je dirais, sur deux registres, bon, qui ne coïncident pas toujours. Bon, voilà. Le problème, c'est, l'Évangile, c'est quoi? Vous allez choisir quoi? Vous allez prendre les textes de saint Paul où il dit « les homosexuels n'entreront pas au paradis » et « pédérastes » et tout ça. Bon, on peut, hein, mais... vous allez avoir des ennuis. Donc, on aime beaucoup Saint-Paul, mais il faut réfléchir autrement. Non, c'est le piège des fondamentalismes. C'est quand même, d'ouvrir la Bible, y regarder. Dans un sens ou dans l'autre, David et Jonathan.
Merci, Paul. Alors, question juridique de compréhension situation.
Alors, si, effectivement, un couple de femmes qui, toutes les deux, sont de nationalité néerlandaise, elles vivent aux Pays-Bas, elles viennent s'installer en France. C'est un petit peu l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, mais pour les couples d'hommes. C'est-à-dire qu'elles vont demander en France la reconnaissance par les autorités françaises de ce jugement néerlandais. La Cour de cassation dit que ce n'est pas contraire à notre ordre public, donc c'est possible. Mais ce qui chiffonne, c'est là que la Cour de cassation a affirmé en juin 2012 dans ce fameux message subliminal, enfin pas si subliminal que ça, donné au gouvernement, c'est que ça ne peut pas aller jusqu'à l'inscription à l'état civil d'un enfant comme né de deux mères ou de deux pères. Donc, pas de problème avec la loi néerlandaise, puisque de toute façon, dans la loi néerlandaise, la conjointe de la mère ne devient pas une deuxième mère. Elle devient parente. Mais il n'y a pas de lien de filiation, puisque de toute façon, le code néerlandais dit qu'il faut un père et une mère. Et le père doit être un homme. Donc elle ne peut pas se substituer au père. Donc on n'aura pas de problème pour justement reconnaître cette adoption, à la fois la PMA et l'adoption. Imaginons maintenant, et c'est là que le problème se pose, imaginons qu'une femme française, une Française résidant en France, aille pratiquer une procréation médicalement assistée avec donneur dans les pays où c'est autorisé pour les femmes seules. Elle y va peut-être avec sa compagne, elle y va seule, bref, elle va en Belgique, elle va en Espagne, aux Pays-Bas, généralement c'est en Belgique ou en Espagne. Un enfant naît. Elle est donc la mère de cet enfant. La difficulté aujourd'hui et les problèmes que l'on voit devant les tribunaux, c'est que cet enfant n'a pas en droit de père. Le géniteur, le donneur est anonyme. Et donc on a la compagne de la mère qui veut, qui revendique des droits sur cet enfant et qui dit d'ailleurs que cet enfant qui n'a qu'une mère a moins de droits qu'un autre et qu'il est discriminé. Et ce qu'il aurait fallu sans doute, et d'ailleurs l'outil juridique il existe dans notre droit, c'est l'adoption simple. Je pense d'ailleurs dans un premier temps qu'il aurait fallu davantage utiliser le texte qui permet de déléguer une partie de l'autorité parentale à un tiers. Ce texte date de 2002. C'est la loi du 4 mars 2002, ça a été fait pour ça, et ce n'est pas utilisé pour ça, la mea culpa pour les juges. Donc, de permettre à la compagne de la mère d'exercer une partie de l'autorité parentale, ne serait-ce que pour conduire l'enfant à l'école, pour avoir toutes les autorisations nécessaires, ça c'est important. Et si c'est plus fort que ça, c'est-à-dire que, par exemple, la compagne de la mère veut léguer ses biens à cet enfant, parce qu'elle l'a élevé, eh bien, permettre l'adoption simple. L'adoption simple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une filiation d'origine et s'en ajoute une autre qui vient la compléter. Et ça, c'est dans notre droit. L'outil, il est là. Le cadre juridique, il existe. Et même, je dirais que c'est d'autant mieux en droit français qu'on a les deux formes d'adoption qui n'ont plus l'adoption simple en Grande-Bretagne, qui ne l'ont plus en Belgique, qui ne l'ont plus en Italie, qui ne l'ont plus nulle part. Et qu'on est quasiment les seuls à avoir ces deux formes d'adoption qui, justement, qui visent à concrétiser des liens qui ont pu se créer, des liens qui ne reposent pas sur la biologie, mais qui sont affectifs et qui sont très forts et qui permettent justement de succéder, enfin de porter le nom en deuxième lieu, enfin qui donne toute une partie de l'identité et qui est inscrit en partie dans cette lignée. Voilà. Donc ça existe, si vous voulez. Il suffisait de débrider un tout petit peu le droit au niveau du 365, 2-3 articles du Code civil, et nous avions les techniques, et ça permettait de résoudre le problème de pratiquement toutes les familles qui aujourd'hui sont allées, enfin les familles, oui, puisqu'elles font famille, puisqu'il y a un enfant, et donc, pour revenir au problème de vocabulaire, donc de ces femmes qui ont un enfant et qui l'élèvent toutes les deux comme conjointement et qui sont là toutes les deux autour de cet enfant, qui ont saisi à multiples reprises la Cour de cassation, qui ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme, qui s'est prononcée en mars 2012. Enfin, ça permettait de résoudre tous les problèmes. Et vous m'avez posé une question de savoir ce qui, dans le Pax, oui, il y a des différences entre le Pax et le mariage civil. Moi, je ne parle que de mariage civil. C'est vrai que, ne serait-ce que sur le plan successoral, ne serait-ce que sur le plan de la pension de réversion, le partenaire ne perçoit pas la pension de réversion. Il y a des différences, si vous voulez. Donc, bien entendu, au niveau de l'engagement, au niveau des droits et des obligations, le mariage, c'est plus que le Pax. On ne peut pas dire le contraire aujourd'hui. Bon, donc, voilà. Donc, il y a un choix de société. Si vous voulez, les juristes, à la fois, comprennent mieux que l'union, puisque une union civile, donc c'est une union, hein, une union civile, c'est une forme de contrat entre deux personnes, c'est deux majeurs, ils ont la volonté de le faire. Pour nous, je crois que pour la majorité des juristes, bon, on dit c'est aussi quelque part une façon de se conformer au modèle que par ailleurs on jette, mais enfin bon, on n'est pas énormément choqués, si vous voulez. En plus, on l'a dans les autres droits. Ce qui est très gênant, c'est qu'à partir du moment où, si on suit vraiment jusqu'au bout les auteurs que je vous citais tout à l'heure, c'est-à-dire on va faire reposer la filiation sur l'engagement et sur la volonté, en la décrochant complètement de la biologie, ben, qu'est-ce que devient l'enfant ? L'enfant, il est au centre d'un contrat, il devient l'objet d'un contrat entre ces deux hommes et ces deux femmes. Et une personne humaine, un sujet de droit, ne peut pas être l'objet d'un contrat. C'est inconciliable. Ce n'est pas dans l'intérêt de cet enfant, en dehors même de tout, d'avoir de mère, de père, etc. Ce n'est pas ça. C'est fondamentalement, si vous voulez, son identité civile qui est en jeu. Et l'identité civile, c'est ce qui détermine tous les droits. Tout à l'heure, on a dit que cet ouvrage s'appelait « L'enfant, sujet de droit ». C'est ça qui est important. Et donc, c'est pour ça que nous, juristes, on souligne les incohérences à la fois du projet tel qu'il est et à la fois de ce qui est réclamé, parce qu'on dit mais où va-t-on ? Où va-t-on ? Parce que au nom de la défense d'intérêts d'une certaine catégorie de personnes, s'il faut bien le dire, on ne peut pas remettre en cause le statut de tous les enfants et la filiation de toutes les personnes. Vous voyez, c'est ça qui nous... Mais c'est un point de vue vraiment à la fois pragmatique, enfin, mais quand même qui se soucie de l'intérêt des enfants. Voilà.
Sur le glissement des mots.
Oui. Je sais bien que le glissement des mots, c'est vrai que les associations, elles ont par exemple réussi, on citait tout à l'heure l'ouvrage, à parler d'homoparentalité. Qu'est-ce que c'est que l'homoparentalité ? Je suis très sensible à ces mots-là. Par exemple, il y a un autre glissement. En plus, comme j'ai travaillé beaucoup sur la maternité à cause de l'accouchement sous X, les glissements de mère qui est le mot, le père et la mère, et maintenant on dit les papas et les mamans, alors que normalement, je suis désolée, mais c'est le vocatif papa-maman. On dit maman, on appelle maman, on appelle papa, mais maintenant j'entends parler beaucoup les papas et les mamans. Non, c'est ça. Il y a un glissement sémantique. Vous voyez, celui-là me choque. Vous voyez, et je ne sais pas si tu vois, mais je dis non. Revenons-en au terme père et mère. Maman et papa, ça sert à appeler, pour vous, qui êtes toujours un éternel enfant, votre père et votre mère.
Merci. On va reprendre deux ou trois questions. Dans la salle 4, il y a également un micro qui est en train de se promener. Alors, si la salle 4 m'entend, elle a la parole pour une ou deux questions.
Oui, bonjour, vous m'entendez ?
Oui, on vous entend.
Oui. Est-ce que juridiquement, il est possible, dans un amendement, de poser l'obligation pour les partis de donner la liberté de vote ? Et est-ce qu'il est possible de mettre dans la loi l'obligation de publication le lendemain du vote dans la grande presse, circonscription par circonscription ?
Bien, je laisse un peu de temps au père Valadier pour répondre. On va prendre la deuxième question. Deuxième question, toujours dans la salle 4.
En vous remerciant de l'actualité, j'aimerais resituer ce débat avec la question aussi de ce qui va être discuté au niveau de la fin de vie. Un certain nombre de personnes disent la loi Leonetti doit être appliquée. Est-ce que nous ne sommes pas en train actuellement de voir que les repères symboliques, et Madame Le Boursicot l'indiquait, les repères symboliques sur lesquels ont été construits les éléments de la vie sociale sont à modifier nécessairement pour arriver à une autre société? Et je crois que l'enjeu à ce moment-là devient très important, puisque ce qu'on a dit, c'est que c'était la liberté individuelle ou la liberté des groupes qui primait sur l'intérêt du bien commun.
Merci, merci beaucoup. Paul ?
Sur la première question, je suis incapable de répondre, parce qu'il faudrait faire une session sur les modalités des élections, etc. Et si j'ai bien compris la question, on est loin du problème de ce soir. Donc là, peut-être que...
Sur la liberté de vote.
Des idées là-dessus. Non, sur la deuxième question, oui, c'est un peu ce que j'ai essayé de dire, l'importance du symbolique. Simplement, le symbolique ne se transforme pas comme ça. C'est bien le problème, c'est-à-dire qu'on ne transforme pas les relations symboliques, mais avec la nature, avec notre propre corps, par voie de législation et par volontarisme. Alors, monsieur disait, il faudra le modifier. Moi, je dirais, les choses se modifient peu à peu. On n'a pas aujourd'hui le même sens de la sexualité qu'au Moyen-Âge, c'est une évidence. Et la loi en tient déjà compte. Mais le grand problème, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas, par décret, changer ce qu'il en est du symbolique. Ça touche à des racines tellement profondes en l'homme qu'on risque de faire des ravages à vouloir transformer les choses. C'est bien la gravité de ce problème, je dirais, cette question. Mais peut-être que je ne réponds pas à votre... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui sont en péril les références symboliques sur lesquelles reposaient nos sociétés. Ça, c'est certain. Et qu'on va dans le sens d'une indifférenciation qui ne sera pas, à mon avis, très heureuse ni féconde pour la vie des gens.
Merci.
Oui, j'aurais voulu préciser que nos parlementaires, députés et sénateurs ont la liberté de vote et que de toute façon, chacun peut savoir quel a été le vote exprimé par son propre parlementaire. Donc voilà, mais la liberté pour eux, il n'y a pas d'obligation à voter comme son groupe. Je lisais un article et j'étais là au moment du débat du PACS, du premier débat du PACS, parce que je travaillais beaucoup avec Jean-François Mattei à l'époque, en octobre 1998. Où le PACS a été écarté sur une question préjudicielle, d'ailleurs posée par Jean-François Mattei. Et donc, c'était intéressant parce qu'on voyait justement que dans les groupes, il pouvait déjà y avoir à ce moment-là des divergences et chacun a voté librement. Donc c'est un principe aussi de notre démocratie.
Merci. On va reprendre. Oui,
je peux dire quand même à nouveau sur le symbolique parce que je n'ai pas bien répondu à la question de monsieur. Concernant le sacrement de mariage, je crois qu'on accuse souvent l'Église catholique de raideur, d'être insensible, etc. Mais si vous prenez l'exemple du mariage, et si éventuellement il y a un mariage homosexuel, nous anticipons, là, allons même dans le sens de la fiction, je crois qu'il y aura une difficulté fondamentale, indépendamment des raideurs très réelles de l'Église catholique, qui est quand même tout le symbolisme des Écritures. N'est-ce pas? Vous pouvez pas le cantique des cantiques, Amos, Osée, l'homme-femme, le Christ époux de l'Église. Enfin, et là encore, on peut pas par décret changer tout ça, dire bon, le cantique des cantiques, on le balaye, Amos, on ne lira plus. Vous voyez, c'est. Alors, je veux dire, quand bien même dira-t-on, bien sûr, il faut accueillir les homosexuels, il n'y a pas de raison de les condamner, il y aura un problème de fond, je ne sais pas comment on le résoudra. Je ne vois pas comment... Alors, heureusement que nous avons la distinction dans notre pays entre le mariage civil et le mariage religieux. Je ne sais pas, j'ai vu il y a quelque temps dans Le Monde, un sociologue sommait l'Église catholique de prendre les devants, de donner le mariage religieux indépendamment du mariage civil. Ce qu'on ne peut pas faire sous peine de poursuite. Le curé qui ferait ça irait en tôle. Enfin, c'est
mais
vite.
Ça nous entraînerait dans des conséquences... incroyable, oui, parce que oui, vous avez d'autres religions qui acceptent la polygamie. Donc, vous voyez, alors moi je veux bien, mais alors.
On ne va pas ouvrir ce débat ce soir.
C'est pas mon latin que je perds. Hein, voilà.
Non, mais il faut féliciter notre régime de.
Non, mais ce que vous dites là, c'est quand même. Voilà, c'est pour ça qu'il faut préserver justement ce corpus autour de l'union civile. On peut peut-être la rebaptiser d'ailleurs, on peut peut-être l'appeler l'union civile.
Attention aux mots. Voilà. Non, je termine là-dessus. Moi, dans la croix d'aujourd'hui, il y a un prêtre qui signe Jean et qui dit procéder à des bénédictions de couples homosexuels. Ce n'est pas un sacrement, il fait ça en privé, discrètement avec quelques amis. Bon, ben, je ne veux pas me recevoir les foudres du Vatican, mais pourquoi pas? C'est bien ce qu'on fait quelquefois dans des couples qui se remarient. Parce qu'il faut toujours faire attention à l'Église catholique entre le niveau des principes qui sont souvent trop rigides et puis la pratique. Un prêtre se doit d'accueillir ceux qui viennent. Bon, si un couple d'homosexuels, ils ont parlé avec eux, etc., voyant qu'ils... Bon, témoignent d'une véritable affection l'un pour l'autre, ils ont vécu ensemble, etc. Pourquoi ne pas leur donner la bénédiction de Dieu? Pas un sacrement. Enfin bon, c'est une idée qui m'est venue cet après-midi en lisant cet article. Bon, l'Église pourrait faire ça.
C'est pour un autre débat.
Un autre débat.
Voilà, alors on va reprendre deux questions. On s'approche tranquillement de la fin du temps. Voilà, alors il y a une question ici et puis une question là-bas. Voilà, alors tu vas commencer par celle-là. Très bien, là. Voilà, des questions brèves si possible.
Paul Valadier, vous avez parlé du problème de cette loi qui introduisait une notion d'indifférenciation. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Parce que sur l'indifférenciation, on se place peut-être sur un domaine de valeur. En tant que chrétien, on va dire c'est mal. Mais est-ce qu'il y a un moyen de le dire au nom de la raison?
Oui. Attendez, laisse. Merci. On va aller prendre le plus vite possible l'autre question. Ça oblige à faire du sport. Mais c'est, merci. C'est, voilà. Levez-vous pour qu'on puisse bien vous voir.
Bonjour, j'ai beaucoup apprécié tout ce que vous avez apporté l'un et l'autre et j'ai bien entendu les motifs mis en lumière par le père Valadier sur les motifs de la loi. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot des motifs des homosexuels qui demandent cette loi?
Très bien, eh bien voilà, bah, écoutez, le micro passe juste à côté. Ouais. Alors, voilà. Voilà, c'est OK.
C'est une question pour Père
Valadier. Un peu plus fort.
Le scénario politique qui va cheminer là, c'est que la loi risque de passer au Parlement. Le Parlement ne peut pas se désister en disant il faut un référendum. C'est uniquement le pouvoir exécutif qui peut décider d'un référendum. Et c'est le référendum qui pourrait permettre aux citoyens de débattre vraiment de toutes ces affaires anthropologiques.
Voilà, merci. Je pense qu'on a suffisamment de points à débattre. Bon. Paul, je ne sais pas si tu veux commencer sur l'indifférenciation peut-être.
Différenciation. Vous avez remarqué qu'il est toujours très très dangereux, c'est un terrain glissant, de s'aventurer sur le terrain de la morale. Aujourd'hui, c'est mal vu. On entend une émission à la radio, on me dit « mais je ne porte pas le jugement moral ». Bon, je ne vois pas pourquoi on ne poserait pas de jugement moral. On en pose pour un couple hétérosexuel en disant, ils ne s'entendent pas, l'un humilie l'autre, c'est très mal. Bon, pourquoi ne pas le dire pour un couple homosexuel, de dire, ils se méprisent, etc., l'un exploite l'autre. Donc, mais de fait, je crois qu'il faut éviter ça parce qu'on a tout de suite l'objection, vous faites de la morale. L'indifférenciation, je dirais, écoutez, lisez Nietzsche, sa grande critique. Sa grande critique de la société moderne, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sens de la distance, il n'y a plus de ce qu'il appelle de noblesse, il n'y a plus de différence reconnue comme telle et valorisée. On est, selon lui, dans le domaine de l'égalitarisme, c'est-à-dire que tout se vaut. Et l'égalitarisme, ce n'est pas l'égalité, c'est le rabotage où tout devient... Oui, ce qu'on dit à propos des religions, elles sont toutes aussi violentes les unes que les autres, où elles disent toutes la même chose, où elles croient tout au même Dieu. Et ce n'est pas vrai. Je m'excuse beaucoup, ce n'est pas vrai. Bon, alors voilà, c'est ça que j'appelle l'indifférenciation. Je dirais que ce n'est pas tellement moral qu'anthropologique. C'est ça le danger, de ne pas reconnaître la différence de l'autre. Alors, il ne faut pas non plus aller trop loin dans la distance, qui pourrait être en effet de l'orgueil, etc. Ce qu'on voit. Mais je crois qu'on peut éviter le discours moral en parlant, et Dieu sait si beaucoup de gens le font, d'indifférenciation, de rabotage, etc. Bon, alors, oui, quel est le discours des homosexuels? Vous le lisez dans la presse tous les jours. C'est quand même, je crois qu'il y a une volonté forte de reconnaissance sociale. Et Dieu sait si la reconnaissance est un concept important. Ce sont des hommes ou des femmes qui ont le sentiment d'être méconnus, bafoués, humiliés, et qui pensent, à travers le mariage, avoir une reconnaissance, ce qui est paradoxal, puisque à peu près les mêmes nous ont expliqué, il y a quelques années, que le mariage, c'était une institution bourgeoise où la femme était exploitée par l'homme. Enfin, lisez Madame de Beauvoir. Bon, et maintenant, donc, c'est les homosexuels, alors que les hétéros ne se marient presque pas, ou moins, qui demandent le mariage. Bon, je plaisante un peu. Je crois qu'il y a ça. Il y a une volonté de reconnaissance, une volonté de non-discrimination, justement. Voilà.
Je pense que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, plus d'un enfant sur deux naît hors mariage. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que nous considérons maintenant que c'est l'enfant qui fait la famille, parce que bien souvent les couples se marient après la naissance du premier enfant. Mais en tout état de cause, les explications, ce que je vous expliquais tout à l'heure au sujet de l'impossibilité pour la compagne de la mère ou le compagnon du père, il y a quand même un certain nombre de familles qui vivent cette situation où on a deux hommes qui élèvent ensemble des enfants, quelques milliers, on l'estime généralement à 30 000, qui élèvent ensemble des enfants, soit que l'un des deux ou que les deux ont eu dans une autre vie, soit qu'ils ont adopté, parce qu'ils ont quand même réussi à adopter, bien que ça soit très difficile, ou alors on a deux femmes qui ont eu des enfants, soit d'une autre union hétérosexuelle auparavant, soit qui effectivement sont allées faire une procréation médicalement assistée à l'étranger, et donc qui revendiquent parce que elles se trouvent là vraiment, l'enfant lui-même se trouve dans une situation compliquée parce que ce lien social, affectif, mais d'abord social très fort, ne peut pas se concrétiser en droit. Et c'est vrai que nous avons vu apparaître ce genre de situation devant les tribunaux parce qu'elles nous ont demandé, ces femmes ou ces hommes, il y a quand même un certain nombre de dossiers qui arrivent, elles nous ont demandé à pouvoir adopter en la forme simple, d'ailleurs le projet n'aurait dû s'arrêter qu'à l'adoption simple, ou au moins de partager l'autorité parentale. Et là, à l'heure actuelle, on est bloqué parce que la loi française et l'interprétation qui en a été faite par la Cour de cassation leur interdisent d'accéder à ce statut qu'on dit parfois le beau-parent, et d'avoir effectivement la possibilité d'exercer ces actes de la vie courante vis-à-vis de ses enfants, ou alors de leur transmettre quelque chose. Je crois qu'il y a vraiment, dans les motivations, il y a une frange qui ne réclamait pas forcément le mariage, mais pour qui le mariage était le moyen de parvenir à ça, parce que le mariage, c'est l'adoption de l'enfant du conjoint, parce que le mariage permet l'adoption conjointe. Donc, je crois que le mariage, c'était plutôt pour cette personne-là, pour ces hommes et ces femmes, avec des enfants, je dirais, c'était le moyen de parvenir à créer une sorte de famille, d'arriver à créer une famille avec des droits et des obligations et tout ce que cela implique. Voilà. Et puis, pour d'autres, effectivement, pour ceux pour qui la filiation n'a pas cette incidence, ce que je disais tout à l'heure sur les différences au point de vue du droit successoral, puisque si effectivement un partenaire lègue tous ses biens à l'autre, eh bien l'autre va payer 60% des droits à l'État, donc il n'y a pas d'abattement, comme il n'est pas l'héritier de son conjoint, alors que maintenant, depuis la loi de 2007, le conjoint arrive quasiment en tête, le conjoint survivant, des successibles, donc il va être éliminé par tout le monde, donc il y a vraiment des droits qui ne sont pas les mêmes. Donc il y a une revendication, si vous voulez, à la fois adulte, je dirais, parce qu'ils voudraient avoir les mêmes droits, outre la reconnaissance sociale, il y a une vraie demande de droits, et puis pour ceux qui élèvent ensemble des enfants, il y a une revendication à constituer une vraie famille.
Sur le référendum, oui.
Un mot, bon, plutôt deux mots. Premièrement, on sait les ambiguïtés de cette pratique électorale. Oui. En général, l'électorat répond de travers à la question, ou transforme la question, on l'a vu pour la Constitution européenne. Mais deuxièmement, la soirée l'a bien montré, ce sont quand même des sujets extraordinairement pointus et difficiles. Comment pourrait-on répondre par oui ou par non? Je crois que c'est du populisme. Nous sommes dans un système de représentation, de représentatif. Faisons confiance à nos parlementaires. C'est eux qui seront capables, avec l'appui d'experts, de sortir de ce maquis et de présenter des lois à peu près correctes. Donc je crois que ce n'est pas un mépris du peuple que de dire que ce n'est pas au peuple de décider sur des sujets si compliqués. C'est le respect d'une démocratie représentative, avec toutes les limites qu'on lui connaît. Donc je crois que les demandes de référendum qui sont venues d'un certain nombre de femmes politiques, mais aussi d'un certain nombre d'évêques, c'est quand même du populisme, au mauvais sens du mot.
Voilà, il est 21h. Nous avons essayé d'apporter quelques petits éléments de réflexion pour que chacun puisse avancer sur son propre chemin d'opinion. Il y aurait beaucoup d'autres choses à entendre. On aura sans doute l'occasion d'y revenir dans d'autres soirées d'éthique publique. Et je crois qu'il est important, comme chrétien, que le débat puisse avoir lieu, continuer à avoir lieu, de manière intelligente et respectueuse de chacun. Merci à chacun de votre présence. Merci à Marie-Christine de Boursicot. Merci à Paul Valadier. Je vous rappelle la prochaine soirée, le 4 décembre, la troisième soirée d'éthique de l'année, sur le thème « Fin de vie, quelle société voulons-nous ?» On est dans des sujets graves actuellement. Merci de votre fidélité et bonne soirée à tous.